7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
On commence par le monde de l'automobile parce qu'on a une étude de la Fondation David de Suzuki qui nous explique qu'en gros, l'automobile siphonne les finances des Québécois.
Et c'est une bonne idée de passer par là au lieu de parler d'environnement et que ça touche personne avec le VUS ce matin. On va parler cash. Là, quand ça touche notre portefeuille, ça va bien. Et effectivement, tu vas les recevoir tantôt, mais l'automobile prend beaucoup d'espace économique. Et je suis allé voir les statistiques de Statistique Canada pour te donner un complément d'information ce matin à ce que tu auras tantôt. Mm-hmm. Un ménage québécois en 2016 dépensait au total 71 000 $. Donc, en moyenne, les gens dépensent 71 000 $. Là-dessus, il y a évidemment 12 467 $ d'impôts. Mais quand on va dans le transport, on tombe à 9 652 $. Donc, tu vois là, un septième à peu près du budget, c'est se déplacer. Et là, on parle seulement de la facture de déplacement qui a été inclue dans les dépenses des personnes. Parce qu'un couple moyen aussi paye implicitement dans ses impôts les routes, les infrastructures, la pollution.
Mais ton prix, là, ça inclut, exemple, le paiement mensuel pour l'auto?
L'auto, ça va inclure l'essence.
L'essence,
ça va inclure
l'entretien.
Aussi, l'entretien, ça va inclure certains voyages, j'imagine, pour certains. Mais c'est Statistique Canada qui dit aux gens, c'est quoi votre dépense au niveau de transport? Et si on continue un peu, on se dit, OK, ça c'est intéressant, mais l'automobile aussi accapare des ressources collectives parce qu'évidemment, combien de temps ma voiture est utilisée par rapport au temps qu'elle est dans la rue? Donc, on paie beaucoup plus de temps des coûts fixes qui ne servent à rien que des coûts d'utilisation. Donc, collectivement, il y a un gaspillage. Et c'est ça qui est drôle parce que si on prend notre budget à louer à la voiture, puis on l'éliminait complètement et on mettait tout ça dans un transport en commun, dans une urbanité, effectivement, on aurait un service incroyable. Tu sais, t'arrivais au coin de la rue, puis t'embarquais probablement dans un autobus à tous les coins de rue, ça irait rapidement, il y aurait moins de congestion routière. Mais ça, c'est dans un monde idéal où chaque individu laisse tomber son pouvoir individuel pour économiquement gagner collectivement. Mais en même temps, quand on a un pouvoir individuel, par exemple, j'ai ma voiture ici, tantôt je vais me promener. Je vais aller me promener, je vais aller au café. En allant au café, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vivre de la signalisation routière, de la congestion. Pourquoi? Parce que tous les gens, cumulativement, notre pouvoir individuel nous nuit finalement individuellement par la suite parce qu'on est trop.
Ouais, mais là, t'es dans tes rêves de prof, là, toi, là.
Non, je te parle au niveau économique, là. C'est du gaspillage, Paul, on s'entend, là.
Oui, oui.
Je fais une voiture qui est dans l'entrée pendant que je te parle présentement. Est-ce que je suis en train de jouir de ma voiture?
Non, je comprends. Mais c'est comme, t'es pas dans la maison chez vous. Est-ce que tu jouis pas de ta maison puis tu payes pas au pareil?
Ben exactement, Paul, t'as tout compris. Effectivement, j'ai rencontré une fille cette année dans l'indice qui me parlait de son coût par jour. Elle avait vendu sa maison, ses actifs en disant, Pierre, moi, ça me coûte 20$ par jour vivre. Toi, ça te coûte combien? J'ai fait des calculs puis je me suis rendu compte qu'effectivement, pour payer ma maison, j'alloue beaucoup de valeur. Et évidemment, on va parler aussi de toutes les externalités, mais Paul, je vais t'amener dans le plus concret.
Ouais.
Tu sais, une Honda Civic, là, ça pèse 1257 kilos, ou si tu préfères, 2765 livres. Ça, c'est pour déplacer une personne qui pèse à peu près 150 livres. Donc, quand tu pensais économiquement, tu dépenses de l'essence pour déplacer 2765 livres vides. Et une fois que tu es dedans, puis que l'essence est dedans, puis ton stock est dedans, bon, tu montes à une couple de livres, on s'entend, et un RAV4, tu vas aller à 3800. Donc, cette énergie-là, tu le payes. Et l'autre affaire, c'est l'immobilisation d'argent. Une calculatrice, j'ai pris un RAV4. Là. Les gens aiment ça, un petit VUS, un petit RAV4. Là. Un petit RAV4 de base, taxes incluses, c'est un petit 42 052 $. Mais ça veut dire que si tu gagnes 55 000 par année, tu vas passer un an de ta vie à payer ton RAV4. Si tu le renouvelles aux 8 ans, tu vas à deux fois, mais tu vas passer deux ans de ta vie. Alors, tu vas travailler pour payer ton RAV4 qui est dans ton entrée. Donc, je sais que faut bien se servir de l'auto, puis on s'entend, il faut se déplacer, puis ça donne une liberté, mais effectivement, économiquement, c'est intéressant de les entendre.
Non, mais il faut que je me déplace. Alors, ça va me coûter quoi pour me... Ce que je veux dire, d'abord, les routes, là, c'est pas juste pour les autos, là, c'est pour le transport de marchandises et tout.
Oui, mais si tu prends toutes les voitures, tout le transport de marchandises, si tu en enlèves un peu, tu as plus de routes parce que tu as plus d'autos.
Non,
s'entend.
Mais le Québec est grand. C'est un grand territoire, puis on n'a pas la population. Donc, c'est sûr que par tête de pipe, ça revient plus cher.
Bon, t'as raison. Puis on s'entend, vivre à Saint-Lin-des-Laurentides, c'est pas comme vivre dans Rosemont.
Ben non.
Tu sais, il y a ça aussi. Mais bon, c'est intéressant de faire l'exercice économique. J'aime ça, de faire des calculs.
C'est très bien. Là, j'ai hâte de voir ça. Une histoire vraie, l'amour avec la marge de crédit dure 3 ans.
J'ai quelqu'un qui m'écrit, il dit, écoute, Pierre, voici mon histoire. Une leçon de rentabilité bancaire. La personne s'achète un condo avec une petite mise de fonds. C'est un travailleur moyen et il travaille dans deux emplois. Tu sais, c'est la vie maintenant. Les gens ont deux emplois. Ils en cumulent plusieurs pour se faire un vrai salaire. Et c'est son mode de vie depuis plusieurs années. Il va à la banque. La banque dit, ouais, c'est difficile de prêter à quelqu'un qui est pas fonctionnaire. Tu comprends? Mais il dit, regardez, c'est mon mode de vie. Donc, on lui prête et il achète son condo et ça va bien. Il paye ses paiements. Puis il dit, c'est rentable. Il en achète un deuxième avec une petite mise de fonds. Et puis là, il se dit, ouais, c'est vrai, par exemple, qu'avec mon salaire, tout ça, faudrait que je le rénove un peu pour faire de l'argent, tu sais, pour le louer. Alors, le 12 décembre 2012, il reçoit une lettre de sa banque qui lui dit, hey, profite d'une marge de crédit de 5%, de taux préférentiel plus 2% pour faire des rénovations, pour profiter de la vie, pour avoir des options souples. Ça va te coûter juste 5% au total. Il dit, OK, fait qu'il prend la marge de crédit, fait les rénovations. Écoute bien ça. En 2015, la banque qui finit par Royal, pour pas la nommer, lui envoie une lettre et lui dit « Ah, vous avez résilié votre assurance sur la marge de crédit. C'est bien ça, donc nous allons procéder. » On parle du 26 août, OK? Le 20 octobre, il reçoit une deuxième lettre. « Bonjour, suite à l'étude de votre dossier, nous avons revisé votre dossier et votre taux passe du taux préférentiel plus 2 à taux préférentiel plus 8. »
Plus 8.
Le gars annule son assurance parce qu'il se rend compte qu'il payait pour rien depuis des années. Fait qu'il dit, je vais pas payer ça, je n'ai pas besoin, j'ai personne à assurer.
OK, t'sais. Fait que comme il prend pas l'assurance, on va chercher l'argent ailleurs en augmentant le taux.
On réalise soudainement qu'il utilise beaucoup la marge de crédit parce qu'il se finançait avec ça, faire les rénaux, il payait juste tout ce qu'il avait à payer. Il gardait quand même un solde élevé, donc il utilisait plus que 70%. Mais on ne l'a pas écœuré pendant 2 ans. Mais tout d'un coup, il annule l'assurance, Paul. Et le lendemain, bang, c'est pas le lendemain, mais 2 mois plus tard, oh, on a revisé votre dossier et votre financement total passe de 4,7%, donc finalement 5%, à 11%. C'est juste...
Change de banque, mon ami.
Hey, mais non, c'est pas juste ça. C'est que là, il rappelle sa banque puis il dit, écoutez, on va faire de quoi? On va se refinancer, on va aller chercher un prêt hypothécaire, puis je vais me refinancer à 2,8, mais pas me refinancer à 11%. Donc, regarde ça, comment ça fonctionne. C'était pour parler du coût. C'est que les banques, ils vous calculent en rentabilité. S'ils vous donnent un cadeau sur une marge de crédit, puis vous prenez l'assurance, ils sont bien contents. Si vous l'utilisez, puis là, tout d'un coup, hop, je ne prendrai plus l'assurance. La banque vous dit, écoute, à un moment, je ne serai plus aussi rentable, je prends plus de risques, donc je vais t'augmenter. Donc, lui, il y avait 2 solutions là-dedans. La première, c'est qu'il avait assez de place dans son capital pour réemprunter sur son condo, donc il est capable de nettoyer ses dettes et de payer moins cher, donc payer le taux d'intérêt hypothécaire. Mais surtout, il a une démonstration qu'il a eu un cadeau. Et que 3 ans plus tard, l'amour était fini. S'il ne prenait pas l'assurance et qu'il payait trop cher pour l'assurance, on lui augmentait son taux à 11%, Paul. C'est beau, hein?
La banque ne perd jamais.
La banque ne perd jamais. Donc, c'est quoi la solution, Paul? Être actionnaire de la banque.
Ou encore pas emprunter.
Oui, mais ça, Paul, c'est plate parce que même moi, j'emprunte beaucoup. Sais-tu pourquoi, Paul? Parce que c'est payant.
Bon, salut. Salut. Les 7h24.